France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Transition écologique, accord de libre-échange, refondation de l'Europe et union des gauches. Voilà les défis de Claire Nouvian, notre invitée, auteure de Abyss, lauréate du prix Goldman, le Nobel de l'environnement, la fondatrice de l'ONG Écolo Bloom, a signé hier avec 70 organisations de défense de l'environnement et des droits humains un appel aux parlementaires à voter contre la ratification du CETA, cet accord commercial bilatéral de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Il y a des causes qui rassemblent bien au-delà des divergences de points de vue. Ainsi commence cette lettre commune adressée aux parlementaires français. Les causes communes, elles sont nombreuses aujourd'hui. Suffiront-elles pour autant à réunir la gauche au lendemain des européennes? Un projet de rassemblement qui avait motivé fin 2018 la naissance de Place Publique, mouvement politique qu'elle a cofondé avec l'essayiste Raphaël Glucksmann. Où en est-on aujourd'hui? Bonjour Claire Nouvian.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Cette liste est l'embryon de ce qui va constituer la gauche dans les années qui viennent, espérait Raphaël Glucksmann en début de campagne européenne. Cette liste va porter un projet, la rencontre du social et de l'écologie. Alors c'est vrai que longtemps la greffe entre le social et l'écologie ne s'est pas faite. Pourquoi, selon vous, et surtout, est-on en train d'y parvenir ?
Je pense qu'il est un peu tôt pour conclure quoi que ce soit. Vous avez vu que cette élection européenne a été l'occasion pour les chapelles de partir en fait à la présidentielle. Donc c'est ça qui a été, à mon avis, le drame de cette élection, c'est qu'au moment où on a besoin d'un pilotage très fort de l'Union européenne, avec des valeurs défendues, en effet, de la rencontre du social et de l'écologie, eh bien nous, les électeurs, on a été pris en otage par l'établissement des marques, hein, c'est du marketing, la présidentielle. On sait qu'on vote pour une personne et non pas pour un programme. Et donc, il faut émerger. Et c'est l'élection la moins chère pour émerger. Donc, les candidats ont émergé et ils ont refusé l'union. Au 26 mai au soir, ils ont tous appelé à l'union, ce qui m'a vraiment fait rire, mais plutôt jaune, en pensant en fait à cette irresponsabilité qui était la leur, hein, puisqu'on sait bien que la lecture de des résultats de cette élection a été assez simple. Ça a été, voilà, le duel Macron-Le Pen est installé pour 2022. Et il était impératif que tout ce qui se situe à gauche de Macron commence à raconter l'histoire de l'union et donc de la responsabilité pour que les électeurs à gauche de Macron aient un peu d'espoir, une perspective.
Vous étiez un peu plus, vous, Claire Nouvian, qu'une électrice de gauche dupée par ces divisions, puisque vous étiez vous-même candidate, certes, en dernière place sur la liste Place Publique. Alors, dans cette perspective que vous venez, dans cette optique que vous venez de développer, fallait-il créer un nouveau mouvement politique? Est-ce qu'on n'avait pas déjà suffisamment de partis à gauche?
Si, il y a suffisamment de partis. Après, le pari de Place Publique, c'est évidemment de faire un mouvement et non pas un parti, puisque on pense que les structures partidaires sont assez mortifères, sont des espaces de lutte, de compétition et de haine interne avec des manigances et l'émergence d'un personnel politique qui est en fait apte à tout, sauf à créer un paysage politique apaisé et rassurant pour nous les électeurs. Et nous, on pense qu'il faut des mouvements qui soient décentralisés, qui soient vraiment démocratiques et qui réinventent les règles d'une vie politique à l'avenir. Et évidemment, c'est une formule à inventer. Et c'est notre pari. Notre pari n'était pas d'ajouter de la division à la division. Le pari, et peut-être qu'on n'aurait pas dû le faire, hein. Moi, je suis tout à fait ouverte à la critique, ça, il n'y a aucun sujet. Mais notre pari, c'était de penser que, comme on a tenté l'union par le haut, avec les chefs à plumes, dans des salles, on a discuté longuement, en parlant de programme. Et quand on a fait ce travail sur les idées, tout le monde a été obligé de reconnaître qu'il y avait un accord sur le fond. C'est-à-dire que d'un point de vue programmatique, idéologique, les lignes de division sont infimes. Donc elles ne justifient pas la division politique. Mais quand on est arrivé du coup à ce constat-là, il fallait après parler de l'union politique. Et là, on a vu que les appareils étaient sclérosés dans leur stratégie d'appareil par rapport à la présidentielle. Et on a pensé qu'en se lançant et en commençant l'union, et en faisant une campagne à la Place Publique, c'est-à-dire avec un style Place Publique plus jeune, plus dynamique, plus de terrain, on allait emporter en fait la partie, puisqu'on a proposé par deux fois la tête de liste à Yannick Jadot, en lui disant « si tu veux apparaître comme l'homme fort à gauche de Macron, c'est le moment de le faire et c'est pourquoi il faut que tu viennes sur cette liste ». Et il a refusé, c'était
Ça, vous lui avez proposé la tête de liste.
Deux fois, oui. Mm-hmm. Ouais. Ah, c'était en fait, Raphaël ne voulait pas de la tête de liste. Enfin, c'est pas son ambition dans la vie, d'être tête de liste aux européennes. Il était persuadé que le pari allait fonctionner, que les partis allaient en fait venir en pensant que c'était vraiment beaucoup plus intelligent, beaucoup plus stratégique et beaucoup plus responsable. Et le pari n'a pas fonctionné pour des tas de raisons. Et pour le coup, on pourrait faire l'analyse de la campagne longuement. Moi, je pense que la campagne n'a pas eu un style assez place publique, et eu un style trop PS. Et du coup, évidemment, le PS est pas en odeur de sainteté dans ce pays pour des tas de bonnes raisons. Ce qui nous a pas permis, à mon avis, de faire le pari jusqu'au bout et de le gagner. Donc, on a eu un début de rassemblement, mais bien sûr que l'ambition était de largement dépasser le petit rassemblement que nous avons commencé à inscrire, j'espère, dans une dynamique qui va être maintenant plus large, parce que le rassemblement sans les écologistes, sans les amonistes, sans le PCF, sans la France insoumise, n'a pas de sens.
Alors justement, cette alliance avec les socialistes, c'est ce qui a expliqué, provoqué le départ d'un certain nombre de membres fondateurs de Place Publique. Un petit tour et s'en est allé, c'est le cas de l'économiste Thomas Porchet.
Non, c'était parce qu'il n'avait pas la position qu'il voulait sur la liste.
Ah bon?
Oui.
Alors aujourd'hui, vous sortez tous les dossiers.
Ah non, on l'a sorti dès le début.
C'est pas comme ça qu'il l'a justifié.
Oui, c'est vrai,
aussi.
Mais ça par contre, c'est il y a des tas de témoins, enfin ça, il n'y a pas vraiment de... Enfin, après, vous savez,
y a pas de discussion.
Voilà, c'est pas très intéressant, on va pas y revenir 100 ans, mais par contre, ce serait faux de laisser dire ça.
Et cette alliance avec le Parti Socialiste, c'est aussi, d'après lui, ce qui explique la frilosité de Yannick Jadot à vous rejoindre.
L'Europe, c'est trop important, c'est trop grave ce qui s'y passe pour se donner comme agenda de sauver la gauche. Pardonnez-moi, j'entends les militants qui me le disent aussi. Ils me disent, mais tu te rends pas compte, la gauche a explosé, le Parti Socialiste est en ruine, il y a autant de chapelles socialistes alors qu'avant il y avait une cathédrale. Mais c'est pas mon sujet, pardonnez-moi. Ce sera le sujet de 2022, ce sera probablement le sujet des municipales. Moi, j'appartiens à un groupe vert au Parlement européen. Et je sais que c'est ce groupe vert-là qui nous permet d'arracher chaque avancée sur la protection de l'environnement, sur la protection de la santé, sur la protection des données personnelles ou des libertés publiques. C'est une écologiste du groupe vert européen qui a fait le rapport contre Orban. Ce sont des écologistes qui mènent ces combats-là. Je veux pas me tromper d'agenda.
Voilà, sauver la gauche, il le dit, Yannick Jadot, c'était pas sa priorité, pas son ambition. Peut-être qu'il n'aurait pas fallu faire cette alliance avec un parti socialiste, sclérosé, en perte de vitesse.
Non, mais autant, je pense qu'on peut tout à fait assumer le fait que le pari n'a pas fonctionné jusqu'au bout et dans l'ampleur qu'on souhaitait. En revanche, je reste totalement et profondément en désaccord avec la ligne stratégique choisie par Yannick Jadot, que je respecte profondément, que je connais très bien, j'ai mené bien des combats avec lui. Blum a gagné des combats avec son appui et celui de Younous Omarjee, mais pour rappel, le combat qu'on a perdu avec Yannick Jadot, qui était celui du chalutage profond au Parlement, qu'on a gagné par la suite, mais on l'a perdu parce que les socialistes n'avaient pas voté avec nous. Et la pêche électrique, on a gagné de nouveau avec Younous Omarjee, la France Insoumise, Yannick Jadot, et on a gagné le combat de la pêche électrique au Parlement européen parce que les socialistes étaient avec nous. Donc c'est ce qu'on a dit en fait à Yannick Jadot, c'est que si on avait été tous ensemble pour reconfigurer tout ce qui était justement en face du PPE, ça aurait pu avoir plus de poids dans la configuration actuelle du Parlement. Il y a une clarification nécessaire chez les socialistes européens, d'ailleurs pas seulement français, entre ce que j'estime être très à droite, enfin il y a des productivistes qui sont enfermés dans des schémas de production, de consommation, de soutien aux industries, même les plus polluantes, etc., qui n'ont rien à faire dans la famille socialiste de gauche. Et puis il y a maintenant une gauche, il y a des socialistes qui ont vraiment viré leur cutie vers de la sociale écologie. Et c'est avec eux qu'il faut s'allier, évidemment.
Mais il l'avait faite, Yannick Jadot, Claire Nouvian, cette union avec la gauche et le Parti Socialiste à la dernière élection présidentielle. Il s'était rangé derrière.
Je lui avais dit à l'époque...
Il n'a pas la mémoire courte, visiblement.
Bon, je lui avais dit, mais tu sais, n'est pas... Je lui avais dit, mais je n'y crois à peine de voir que là, t'as un boulot pour l'écologie dans cette élection présidentielle et tu passes ton élection et ta campagne enfermée dans une salle avec Benoît Hamon à faire des tractations. J'ai jamais vu ça. Donc on est jamais...
Donc il aurait dû être candidat seul avec Europe Écologie Les Verts à la dernière présidentielle.
Évidemment que la présidentielle, je lui avais dit, mais tu restes sur, tu fais exister l'écologie jusqu'au bout et tu fais tes tractations au dernier moment. Mais il a raté sa campagne complètement. Il a même pas fait exister l'écologie dans la campagne.
Mais du coup, c'est ce qu'il a fait pour la campagne européenne et vous lui reprochez, vous dénoncez, désapprouvez une stratégie isolationniste.
C'est pas du tout les mêmes enjeux.
D'accord.
Puisque faire de l'alliance en vue de l'élection présidentielle, bien sûr, mais au dernier moment. Là, pour le coup, c'est le moment où jamais, quand on a des candidats qui ne sont pas franchement écolos, de faire exister une thématique. Et les tractations, on les fait au dernier moment. Il a commencé sa campagne par s'enfermer dans une salle. Mais c'était dingue.
Et vous, Claire Nouvian, comment renouveler la politique si des candidatures citoyennes comme la vôtre refusent de prendre leurs responsabilités et pensent que faire de la politique pour avoir un poste, c'est pas pour elles? Pourquoi vous n'êtes pas allée en position éligible sur cette liste, place publique? Comment, sinon, faire changer les logiques de parti?
Oui, j'entends. Hein, c'est très ambigu, hein, parce que le pouvoir et la conquête du pouvoir génèrent à raison une méfiance très profonde dans les électeurs. Et de fait, on voit que la conquête du pouvoir rend assez obsessionnel et n'attire pas la meilleure catégorie d'individus. Donc, à la fois, on me dit « tu es crédible parce que tu ne veux pas de mandat ». Et tu n'es pas crédible parce que tu ne veux pas de mandat. Et je vous avoue qu'on se retrouve de toute façon dans une tension qui est un peu insoluble. Donc la question devient parfaitement personnelle. Et pour l'instant, je ne veux pas de mandat. J'ai pas dit que je ne prendrai jamais de mandat. Mais pour l'instant, je ne veux pas de mandat pour des raisons personnelles. J'ai beaucoup œuvré au Parlement européen. Bloom continue à être très très présent au Parlement européen. On a des gros dossiers, vous savez, Macron nous rend la vie quand même misérable. Il vient de prendre position pour la réintroduction des pires catégories de subventions publiques, alors que Édouard Philippe, simultanément, nous faisait un discours, la main sur le cœur, à l'Assemblée nationale, en disant que toutes les incitations économiques allaient être revisitées. Eh bien, on a réintroduit les pires catégories d'aides qui vont mener à la surpêche, à la destruction de l'océan et des pêcheurs. Et donc, voilà ce qu'on a à faire. On va continuer à être présent au Parlement, mais ça demande quand même... Il faut le dire, un sacrifice total.
Mais ça, c'est intéressant. Vous allez continuer votre lobbying environnement auprès des instances européennes. Vous sentez que c'est aussi là et comme ça que vos idées progressent?
C'est très concret. En fait, je pense qu'il faut tenir tout d'une seule main. C'est ça qui est compliqué. C'est que je pense que tous les citoyens doivent s'embarquer dans l'aventure politique au sens de mettre la pression, de se repolitiser, de demander, d'exiger une union à gauche de Macron en vue de la présidentielle pour qu'on ait qu'un seul candidat ou une seule candidate, etc. On doit s'impliquer. Et en même temps, si on ne fait que ça, on se perd dans des choses qui ne sont pas très concrètes. Et moi, j'ai un sentiment, j'ai une espèce d'horloge interne. Je crois que ça doit s'appeler l'éco-anxiété. C'est un nouveau terme, mais qui est très concret. Où matin et soir, je me dis, mais je sais, je vois l'ensemble des facteurs qui sont en train de nous mener dans un gouffre. Et ma seule façon de lutter contre cette éco-anxiété très présente, c'est d'avoir des choses concrètes, des résultats concrets, des actions concrètes. Et Bloom est le lieu d'une immense expertise et d'une mobilisation incroyable des citoyens, parce qu'on est très soutenus par des citoyens formidables. Et on a une petite équipe, mais ultra déterminée, à gagner ces combats. Même si, je vous avoue qu'en ce moment, avec Macron au pouvoir, on n'avait jamais vu autant de recul sur les sujets environnementaux, donc c'est pas une période facile.
Bloom, qui c'est votre ONG, qui s'est fait remarquer, connaître sur les dossiers pêche et ceux de la conservation des fonds marins, ça reste aussi les dossiers prioritaires pour vous aujourd'hui avec Bloom?
Oui, parce que, comme je vous disais, sur chaque front, tout recule. Hein. Donc sur l'ensemble de la protection de la nature, de la protection des métiers les plus vertueux, mais aussi les plus fragilisés par rapport aux logiques industrielles, les pêcheurs artisans sont en train de disparaître réellement. Et c'est orchestré. Macron va accélérer la transition vers une pêche uniquement industrielle et faire disparaître la pêche artisanale en réintroduisant ces aides qui sont quand même, il faut le savoir, on est dans une situation complètement ahurissante, ubuesque, où toute la communauté internationale s'est engagée à interdire les subventions publiques qui alimentent la surpêche, donc la destruction de l'océan, des pêcheurs, d'ici 2020. Et on est en 2019 et Macron a plaidé avec l'Italie et l'Espagne auprès du Conseil, et ça a marché, pour la réintroduction de ces fameuses aides qu'on est supposé interdire d'ici 2020. Donc on se retrouve dans cette aberration, une fois de plus, c'est la méthode Macron d'avoir des discours, bien écrit, où on annonce qu'on ce capitalisme qui est dévoyé, qui détruit la planète, etc. Et puis par derrière, on fait exactement le contraire. C'est-à-dire que ce niveau-là de mensonge, de cynisme, de schizophrénie, on n'avait jamais vu. Donc nous, on passe notre temps à faire le pont. Pour en fait dire il y a des discours et nous on vous donne à voir la réalité des actes politiques qui sont pris au quotidien. Et cet écart n'a jamais été aussi grand. C'est-à-dire que Sarkozy assumait ce qu'il était. Hollande, on sait ce qu'il a fait sur la déchéance de nationalité, etc. Et c'était dramatique, mais sur l'environnement, il y a eu des vraies avancées. Même si on s'est battu sur le chalutage profond, il y a eu la loi biodiversité, il y a eu l'interdiction des néonicotinoïdes, il y a eu l'accord de Paris, il y a eu des choses. Là, on se retrouve quand même dans un cas de figure qui est vraiment nouveau pour nous. C'est-à-dire que les gens continuent à écouter des discours, mais ça nous désole. Mais arrêtez d'écouter les discours de Macron. Revenez en fait dans la réalité de ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est faire passer des décrets qui veulent détruire l'environnement, qui veulent bétonner la France. Ils veulent pouvoir construire sur des sites protégés. On a ouvert la loi littorale à la construction de zones qui étaient inconstructibles. On est en train de reculer sur tous les fronts. Et c'est pas donc les gens associent Emmanuel Macron a une forme d'immobilisme environnemental.
Vous dites du recul.
Mais c'est des reculs dramatiques. Au moment où on sait, même Gutiérrez nous a dit, mais on n'a pas 10 ans pour changer le monde, on a 2 ans pour prendre les mesures, les politiques publiques qui s'imposent et qui sont radicales, de façon à pouvoir rentrer dans les 10 ans des clous qui nous sont donnés en vertu évidemment de ces objectifs climatiques et biodiversité.
Un eurodéputé La République En Marche que vous connaissez bien, Pascal Canfin, a co-signé cette nuit une tribune sur la transition écologique. Il dit que l'écologie est au cœur de l'acte 2 du quinquennat et il réaffirme la mobilisation du gouvernement et de la majorité présidentielle sur ce terrain. Pour vous, le gouvernement peut se verdir aujourd'hui, va peut-être se verdir dans son action à partir de maintenant ?
Impossible. C'est ils ont acte 2, acte 1, acte 10, peuvent appeler ça comme ils veulent. Regardons ce qu'ils font. C'est tout ce que je demande aux Français. Regardez ce qui est fait par le gouvernement. On arrête d'écouter ces discours. Ils sont faits justement pour vous endormir et vous enfumer. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'au moment même où ils parlaient d'acte 2, je vous dis au moment même où ils parlaient de l'acte 2, devant la représentation nationale, au Conseil, on est en train de faire l'inverse de ce qu'on s'est engagé à faire avec les objectifs de développement durable. C'est-à-dire que vous imaginez l'impact que ça a. On a la communauté internationale, en 2015, a adopté ces objectifs de développement durable qui doivent régler tous les problèmes de l'humanité et de stabiliser notre environnement et le climat. Le premier acte, justement, de ces objectifs de développement durable, c'est d'interdire les subventions néfastes d'ici 2020. Et ce premier acte, quand on dit on va pas le rater, c'est pas le gouvernement qui dit mince, tout est en cours, ça y est, c'est parti, on va interdire les subventions néfastes, mais on va pas réussir d'ici 2020, l'objectif était trop ambitieux. On fait pas ça. On fait le contraire. On réintroduit des catégories d'aide qui étaient interdites en Europe, qui étaient un des seuls endroits au monde où ces catégories d'aide étaient interdites depuis 2005, vous voyez. Donc on fait quelque chose de profondément néfaste, de profondément destructeur de la confiance même qu'on peut faire au gouvernement de ce monde et à la gouvernance internationale. C'est très destructeur. C'est très dangereux. Et il y aura une personne comptable de la destruction de ces objectifs de développement durable et de la crédibilité qu'ils peuvent avoir, ce sera Emmanuel Macron.
Donc vous lui faites plus confiance pour l'instant. Mais si son action va dans le bon sens, vous soutiendrez peut-être le gouvernement. Vous êtes plutôt force de proposition aujourd'hui ou force d'opposition ?
Ah ben d'opposition.
D'opposition.
Que voulez-vous ? Mais si vous saviez. Mais vous voulez, on fait une journée spéciale sur l'environnement et on va rentrer dans le concret. Parce qu'il faut juste regarder les choses concrètes. Vous voyez, en fait, c'est pas des positions idéologiques. Moi, j'ai travaillé avec Nicolas Sarkozy pendant les 2 premières années, je peux vous dire. Alors qu'on sait maintenant le financement libyen de sa campagne, la honte que c'était d'avoir reçu Kadhafi à Paris, etc. Mais sur l'environnement, il a eu une lueur, il a pensé qu'il devait être la clé de voûte de la société. Il a donné les clés de la maison à Jean-Louis Borloo, qui est allé très loin à ce moment-là. Mais ça a duré 2 ans. On se souvient bien du revirement de Nicolas Sarkozy par la suite, qui est revenu sur des valeurs fondamentales de la droite productiviste. Mais pendant les 2 premières années, donc vous voyez, moi qui franchement suis une opposante absolue à Nicolas Sarkozy, on a travaillé avec lui. Donc ce que je vous dis n'est pas un positionnement idéologique, c'est sur la base de choses concrètes. Mm-hmm. Sauf que on sait très bien que Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie, avait déjà entamé sa vision des choses. Il l'avait déjà mise à l'œuvre. Il avait signé un décret pour l'exploitation extraction de sable dans la baie de Lannion. Il avait privatisé l'aéroport de Toulouse. En donnant ça à un consortium chinois qui était basé dans un paradis fiscal. Enfin, la valeur idéologique de cet homme était déjà là sur la table. On pouvait la voir. Je ne sais pas par quel miracle du 21e siècle, juste parce qu'il est jeune, ma grand-mère le trouve beau, c'est pas mon cas, mais voilà, parce qu'il est jeune et beau, on se retrouve avec un président qui a réussi à nous mentir, en fait.
Claire Nouvian, qui pour constituer aujourd'hui cette opposition? Vous vous êtes rassemblés à l'appel de François Ruffin, député France Insoumise, avec des représentants du PC, du PS, d'Europe Écologie Les Verts, contre la privatisation d'ADP. Et ça, c'était plutôt un bon signal, j'imagine, pour vous, une réussite. Est-ce que l'essai va être transformé sur d'autres dossiers? Est-ce que ça va se jouer au coup par coup, maintenant, l'Union de la Gauche?
Eh bien, je trouve qu'en effet, c'est une très très bonne initiative et une très bonne chose de voir cette gauche écolo rassemblée autour d'une seule table. C'est notre rêve à tous. Hein. Je ne crois plus, évidemment, je pense qu'on est très nombreux à ne plus croire à la femme ou à l'homme providentiel. On a envie de voir tous ceux qui sont à gauche de Macron, qui portent les mêmes discours, qui partagent beaucoup de valeurs fondamentales humanistes, progressistes, écolo-radicales. On aimerait simplement voir une équipe se former. Une équipe se former. Et qu'ensuite, nous les citoyens, à nous d'inventer des modalités pour dire, voilà, puisqu'il faut en choisir un, la Ve République nous oblige institutionnellement à en avoir une seule candidature, eh bien à nous d'inventer des modalités pour les forcer à se déterminer. Mais ce qu'on veut, c'est une équipe. Moi, j'aimerais voir Piolle, Jadot, Anne Hidalgo, Ruffin, tout le monde travailler ensemble et en effet prendre la direction en fait de ce pays pour lui imprimer une marque sociale très profonde et une marque écologique radicale.
Merci Claire Nouvian. Vous restez avec nous, on se retrouve après le journal de 8h. France Culture, il est 8h justement.
France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Transition écologique, accord de libre-échange, union des gauches et refondation de l'Europe. On en parle avec notre invitée aujourd'hui, Claire Nouvian, depuis 7h40. Elle est la fondatrice de l'ONG Écolo Bloom, mais également la cofondatrice du mouvement politique Place Publique avec l'essayiste Raphaël Glucksmann. Rebonjour Claire Nouvian. On a donc découvert ce matin au réveil les deux nouveaux visages de l'Europe, celui de l'Allemande Ursula von der Leyen qui va présider la Commission européenne et celui de la Française Christine Lagarde qui prendra la tête de la Banque Centrale Européenne sur cette reconfiguration au sommet. Qu'en dites-vous ?
Eh bien, je ne peux rien dire sur Ursula von der Leyen parce que je ne la connaissais pas. Après, ça m'inquiète d'entendre qu'il y a des charges contre son ministère pour des questions de corruption parce que je pense qu'après Juncker, on n'avait pas besoin d'avoir quelqu'un de corrompu à la tête de la Commission. Je vois que Frans Timmermans reste vice-président de la Commission, ce qui m'inquiète aussi, puisque même si c'est quelqu'un qui se bat en effet pour l'état de droit, et donc qui s'engage sur toutes les violations de l'état de droit et dans les pays de l'Est, c'est quelqu'un qui a quand même œuvré dans le sens des lobbies industriels. Nous, on a maille à partir avec ce fameux Frans Timmermans, puisque nous avons montré des cas de fraude et de pêche illégale, notamment néerlandaise, sur la pêche électrique. Et donc, nous avons obtenu de la direction des pêches de la Commission européenne, en tant que voilà notre association Bloom a montré ce cas de fraude, la direction des pêches a reconnu qu'il y avait des problèmes de pêche illégale et a accepté d'ouvrir une procédure d'infraction contre les Pays-Bas. Et le collège des commissaires bloque. Donc, ça fait des mois déjà que nous demandons à ce néerlandais de Frans Timmermans de débloquer la situation et de permettre l'ouverture de cette procédure d'infraction pour pêche illégale et fraude auprès des Pays-Bas. Vous voyez, donc Frans Timmermans a des casseroles quand même.
Mais il reste en place, il reste en poste comme vice-président de la Commission. Beaucoup. Mais du coup, ouais. Vous connaissez son adresse et l'affaire va continuer.
Et continuer, elle ce bras continuer. De fer avec une commission ultra-libérale va continuer.
Juste un mot, vous nous disiez, Claire Nouvian, vous sentir plus utile aujourd'hui comme lobbyiste environnement à Bruxelles que comme eurodéputée à Strasbourg, puisque vous n'avez pas choisi donc de vous présenter en place éligible sur la liste de Place Publique. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état de la démocratie européenne?
Non, mon choix en tant que de ne pas aller au Parlement, c'est un choix personnel. C'est que vraiment, c'est une vie de fou Enfin, il faut quand même.
Oui, mais vous le disiez, c'est pas un choix de ne plus agir. Donc, vous allez continuer à intervenir sur tous ces dossiers.
Oui.
Mais vous vous sentez quand même plus utile comme ça.
Mais en fait, surtout, je suis satisfaite parce que nous menons des actions et concrètes et souvent victorieuses, parce que la démocratie fonctionne quand elle est éclairée. Elle est éclairée en partie par la science, mais on sait aussi que la science peut être pilotée par des enjeux politiques et industriels. Et donc, on a besoin d'une expertise ou d'une contre-expertise citoyenne. Et les associations, les petites associations expertes citoyennes sont aujourd'hui absolument indispensables pour aider notamment les décideurs publics à savoir les enjeux qu'ils ont entre les mains. Donc c'est nous qui avons fait sortir par exemple le sujet de la pêche électrique que personne n'avait vu venir et donc on a montré qu'il y avait un énorme problème non seulement écologique mais évidemment social puisqu'on détruisait les métiers les plus durables dans la pêche artisanale et aussi qu'il y avait, en fait, on a découvert des cas et des cas de fraude. Donc c'est très drôle de faire des choses qui sont concrètes puisque c'est comme faire un peu du journalisme d'investigation. Mais une fois, enfin, le journaliste d'investigation nous met sur la table des données qui sont incroyables, comme Fabrice Arfi qui vient nous montrer que on est en train de détricoter la justice anticorruption en France. Mais après, ça exige que les décideurs publics ou les assos s'en saisissent. Alors que nous, on révèle et on porte nos sujets jusqu'au bout. Donc c'est très satisfaisant. Après,
et le Parlement européen,
des décideurs publics très engagés.
Et le Parlement européen a suffisamment d'influence, de pouvoir aujourd'hui pour vous?
Largement pas assez. Évidemment que le Parlement, le plus gros sujet du Parlement, c'est qu'il n'a pas l'initiative législative. Et donc, on dépend de la Commission européenne qui, elle, peut proposer des lois. Mais le Parlement ne peut pas proposer des lois. Au mieux, ils peuvent faire, les députés, ce qu'on appelle des rapports d'initiative, qui envoient un signal, qui envoient en fait une demande formelle, ou prendre des résolutions qui sont des demandes formelles d'avoir un cadre législatif. Mais malheureusement, en effet, l'initiative législative du Parlement est un sujet absolument impérieux qu'il va falloir traiter dans les réformes institutionnelles à venir.
Claire, nous vivons deux accords controversés en ce moment, l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. La Commission européenne a conclu vendredi un vaste accord commercial avec l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay. Alors, en l'état, la France se dit pas prête à ratifier l'accord, mais c'est une affaire à suivre. Et puis, autre accord, le CETA, avec 70 organisations, vous avez signé une lettre aux députés français leur demandant de voter contre la ratification de cet accord bilatéral et commercial de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Vous avez estimé qu'il s'agissait là d'une cause qui devait rassembler tous les citoyens, les militants des droits de l'homme et aussi de l'environnement. Pourquoi ce projet d'accord bilatéral vous met tous vent debout?
Alors d'abord, il y a eu plus de 3 millions de citoyens qui ont signé contre le TAFTA. Donc le TAFTA a été englouti, il est en train de refaire surface puisque Juncker a fait un peu la danse du ventre à Trump. Et on voit bien que cette espèce d'hydre disparaît et englouti du côté États-Unis, va réapparaître du côté canadien par le biais du CETA. Donc les accords de libre-échange, il y en a des milliers, mais on voit bien que leurs modalités ne sont pas démocratiques. D'abord, le contenu de ces accords et la façon dont on va décider de ces accords est totalement opaque et les contenus des accords sont absolument inacceptables. Donc on a des accords qui aujourd'hui permettent et envisagent, vont mettre en œuvre une accélération en fait de la dégradation climatique et environnementale de notre planète. Donc on va mettre en concurrence des pratiques qui ne sont pas durables, la déforestation de l'Amazonie pour faire du soja qu'on va importer et qui va détruire une partie évidemment de notre agriculture et de notre élevage. On met en concurrence, comme disait le forestier agronome Marc Dufumier, il dit on met en concurrence notre moissonneuse batteuse du Nord avec la faucille du Sud. Et on se retrouve exactement dans cette concurrence en fait Nord-Sud ou État à État avec des normes sanitaires environnementales qui sont non seulement pas respectées, mais qui sont dégradées et qui vont accélérer les problèmes qu'on est supposé régler.
Écoutez,
donc on est tous très inquiets parce que ça orchestre non seulement la dégradation de notre environnement et des conditions de travail des gens chez nous, alors qu'on devrait relocaliser les productions, de toute évidence. Mais on se retrouve aussi dans un déni de démocratie, en fait. Avec, on voit bien que la façon dont ces accords sont négociés et ensuite mis en œuvre, ça va contre la volonté des citoyens, ça va contre les intérêts économiques de nos pays. Et pourtant, ça nous passe dessus. Et on voit bien que le CETA va être ratifié au milieu de l'été, au moment où les ONG sont démobilisées, au moment où les gens partent en vacances, vous voyez. Donc ce n'est pas acceptable non plus.
Donc des mesures protectionnistes pour se protéger plutôt que
surtout des mesures qui vont dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'on est obligé de lutter contre le changement climatique, donc contre les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire de lutter contre le transport de marchandises à travers le monde entier, alors que ce sont des marchandises qu'on est capable de produire parfaitement bien chez nous. Donc évidemment qu'il va falloir, on est obligé de questionner les aberrations économiques multiples de nos systèmes de production.
En moins d'une minute, je vous propose juste d'écouter le plaidoyer pro-CETA du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui défendait en février 2017 devant les députés européens, on en parlait, l'accord de libre-échange.
Nous vivons à une époque où les citoyens sont inquiets de voir un système qui bénéficie à quelques entreprises. Et leurs inquiétudes sont valables. L'angoisse des gens à propos de l'économie et du commerce. L'inquiétude de voir nos enfants ne pas obtenir les mêmes emplois et les mêmes opportunités que nous avons eues. Tout cela, nous pouvons y répondre si nous menons une politique commerciale inclusive qui bénéficie à tous.
Une politique commerciale inclusive, Claire Nouvian ?
Non, c'est exactement le contraire. De nouveau, là d'abord, on voit bien que c'est un cadeau de Macron à Trudeau, puisqu'il y a des élections au Canada en octobre et qu'il a besoin d'une petite victoire. Et c'est vécu comme une victoire, alors qu'en réalité, c'est un échec monumental pour un chef d'État de dire... On va booster la dégradation de notre planète. On va la rendre tranquillement, mais sûrement invivable, cette planète. Donc en fait, ils devraient prendre la responsabilité qui est la leur, c'est-à-dire se dire nos fidélités, les seules fidélités que nous connaissons et que nous envisageons sont des fidélités envers les citoyens et non pas envers les multinationales qui nous pressent à exporter. Et c'est ce qui se passe hein. Aujourd'hui. On voit bien que l'Europe, du coup, a importé beaucoup plus de soja, de gaz de schiste, tout ça pour faire en effet la part belle aux multinationales qui tiennent souvent le crayon à Bruxelles ou ailleurs. Et en fait, c'est ce système-là dont on ne peut plus qu'on ne peut plus accepter, dont on ne veut plus. Donc on aimerait désormais avoir des chefs, des grands chefs, des vrais grands chefs, qui prennent la mesure de l'état de notre situation actuelle, c'est-à-dire des chefs qui soient des chefs de guerre, qui disent que la guerre qu'on doit mener aujourd'hui, c'est une guerre pour permettre à cette planète de demeurer vivable. Or, la plupart de notre planète va être en telle surchauffe qu'on ne pourra plus y habiter et on va être face à des migrations qu'on ne pourra plus endiguer. On va être face à des échecs économiques où les assurances, les banques vont faire faillite. Et face à ça, il y a une seule consigne, c'est de rendre cette planète vivable, de la maintenir vivable et de lutter contre les inégalités. Et eux, ils accroissent les inégalités et ils dégradent, ils accélèrent la destruction du climat et de l'environnement. Je suis ahurie. Et des peuples premiers, puisque Bolsonaro est aussi en guerre contre les peuples autochtones d'Amazonie. Donc la boucle est bouclée.
Alors vous ne voulez pas d'homme providentiel. Là, vous parlez quand même d'un chef, pas de sauveur à gauche. La guerre, c'est quand même le terme qu'a employé ce week-end Nicolas Hulot, qui appelle à l'unité dans la guerre pour le climat et qui juge incohérent, comme vous, Claire Nouvian, avec les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Le libre-échange est à l'origine de toutes les problématiques écologiques, dit-il, dans le monde. Là encore, on voit l'importance pour vous tous de réconcilier justice sociale et justice écologique, penser la transition, mais aussi avec cet environnement-là. Une dernière question, Claire Nouvian, tous les jours, dans les matins d'été à 7h25, on peut écouter le très polaire carnet de bord de Nicolas Martin en Antarctique. C'est d'ailleurs une question qui préoccupe aussi les climatologues, la fonte à vitesse grand V des glaces marines. Si jusqu'ici la surface moyenne avait augmenté, si le pôle sud était jusqu'ici épargné, le mouvement s'est inversé, semble-t-il, depuis 5 ans. On a encore du mal à comprendre visiblement ce type de phénomène, à comprendre ce qui est en train de se jouer, mais ça devrait néanmoins nous alerter.
Vous savez, Christophe Bonneuil, le chercheur du CNRS, dit mais la conscience, on l'a depuis longtemps. La conscience, en 1800 exactement, Alexander von Humboldt alertait sur le changement climatique et la destruction des écosystèmes. Même si ces termes-là n'existaient pas et qu'il n'utilisait pas cela, il disait que les monocultures intensives des colons en Amérique du Sud généraient du changement climatique. Donc la conscience est là. Être alerté, mais on est alerté. Quand on dit, mais non, mais Macron, il manque juste de culture scientifique. Faux ! Il sait exactement ce qu'il fait.
Bolsonaro, on a la conscience et la connaissance.
On a la conscience, on a la connaissance, on œuvre de façon totalement, moralement corrompue, quand en connaissance, on continue à agir contre les intérêts des citoyens et des êtres d'ailleurs autres que humains. Donc non, je refuse de dire « Ah, ça y est, on commence à y croire, on entre dans un âge de conscience. » Mais les faits sont là, on les a vus depuis longtemps. Rachel Carson, elle a dit depuis bien longtemps avec son livre « Le printemps silencieux » que les insectes et les oiseaux étaient en train de disparaître. Aldo Léopold, il a alerté en 1949 dans son almanach d'un comté des sables sur la dégradation de tous nos écosystèmes et la disparition des prédateurs. Enfin, ça fait longtemps, je vous dis, von Humboldt, enfin, lisez la biographie de von Humboldt, magnifique, s'appelle L'invention de la nature, et vous verrez à quel point on avait conscience. On avait conscience, on avait les faits, ils commençaient déjà à être établis scientifiquement. Ce qui nous manque, c'est de la volonté. Ce qui nous manque, c'est, j'entends bien l'espèce de d'injonctions contradictoires quand je dis nous, on ne peut pas attendre quelqu'un de providentiel, il nous faut un chef de guerre, il nous faut des chefs de guerre. Évidemment que quand on reste en démocratie, on va arrêter avec la providentialité d'une personne unique. C'est une équipe qu'il va nous falloir, mais une équipe déterminée. Mais en fait, au contact des électeurs, c'est pas, pourtant, c'est pas si compliqué la démocratie. On a un mandat, ce sont les électeurs qui nous le donnent, on dit qu'on va faire des choses, après il suffit de les faire. C'est le mensonge qu'on ne peut plus supporter.
Et Nicolas Hauleux, de plaider aussi pour une diplomatie écologique plutôt que économique. Merci beaucoup à vous,
merci à vous.
Claire Nouvian, d'être venue dans ces matins d'été. France Culture, il est 8h30.